Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co et aussi en podcast sur toutes les plateformes. Eh bien, aujourd'hui, on fait une petite pause sur les grosses sorties jeux vidéo auxquelles on a eu le droit ces derniers mois. On va parler de la TwitchCon, on va parler streaming, évidemment, un petit peu jeux vidéo quand même, c'est le but de l'émission. Et pour ça, vous allez voir deux têtes que beaucoup d'entre vous doivent connaître. À commencer par Sunday. Bonjour Sunday, ça va ?
Salut Mélinda, ça va très bien. Merci de me recevoir. Oui. Pour ne pas parler de Twitch, c'est parfait. C'est un sujet que j'aime bien.
Je crois que tu maîtrises un petit peu le...
Un petit peu, effectivement.
Streameuse, quand même.
Streameuse, entre autres, malgré mes multiples casquettes sur Internet, c'est celle que je porte le plus souvent et que j'aime le plus. Donc, effectivement.
Donc, ouais, tu vas être parfaite pour nous parler de tout ça. Et face à toi, pour ceux qui me connaissent et le connaissent, Daz. Le retour.
Bonjour.
Comment ça va, Daz?
Ça va super bien. Hein, je suis ravi d'être ici.
Ça me fait plaisir.
C'est une chaîne de télé que j'ai beaucoup de plaisir à regarder.
Voilà. Mais j'espère que tu me regardes tout le temps.
Bah, évidemment.
Ah bon. Bon, voilà. Daz, ancien du stream avec moi.
Ancien du stream, de le stream, JVTV.
Tout ça.
Voilà, streamer.
Et maintenant, streamer.
Streamer, je préfère...
Un peu
créateur de contenu.
Créateur de contenu, tu préfères?
Ouais, parce que c'est pas que je fais pas que du stream.
C'est vrai.
Je fais aussi de la vidéo froide sur YouTube, je fais des podcasts.
Ah bah voilà.
J'écris des trucs. Donc,
Toute cette économie et tout ça, tu vas pouvoir nous en parler.
Ah oui, ça va être très rapide.
C'est super. Et voilà. Et s'ils sont là, c'est évidemment parce qu'il y a la TwitchCon à Paris le week-end prochain. Et que si vous ne savez pas du tout ce que c'est, eh bien vous allez tout savoir. C'est l'actu à chaud de la semaine. Donc voilà, je vous le disais, à Paris, Porte de Versailles, Paris Expo, il y a samedi et dimanche la TwitchCon. C'est la première édition en France. Ce n'est pas la première édition. C'est quand même un événement donc, créé par Twitch, comme son nom l'indique, depuis 2015, qui s'exporte en Europe depuis 2019. Donc hors période de Covid, ils ont essayé quand même de faire une autre édition tous les ans. Est-ce que vous êtes déjà allé à une des éditions précédentes, Amérique du Nord ou Europe ?
Alors, pas Amérique du Nord, mais en Europe. Moi, j'y étais l'an dernier à la TwitchCon Amsterdam, où j'avais été invitée directement par Twitch, puisque je suis venue en tant que jury du concours cosplay.
Il faut savoir que le cosplay, c'est quand même aussi ta spécialité.
C'est vrai que j'ai un petit passif dans ce milieu-là. Effectivement, à la base, je suis quelqu'un qui vient du monde du cosplay. J'en ai fait pendant très longtemps. Ça a été même mon métier avant de devenir streameuse, en fait. Donc, et c'est même quelque chose que j'ai fait pendant longtemps sur Twitch, en fait, faire découvrir aux gens le cosplay au travers de Twitch, comment on fait des cosplays, etc. Donc du coup, effectivement, ils ont fait appel à moi pour venir l'an dernier pour juger un petit peu les participants du concours cosplay, voir les créations et puis surtout élire les meilleurs costumes et puis faire remporter les prix, parce que c'est ça qu'on veut, évidemment.
Alors c'est quoi un très bon costume de cosplay ?
C'est un costume où on va regarder la technique et surtout la qualité d'exécution avant tout. En gros, c'est facile, entre guillemets, de faire des choses, on va dire, flashy, qui sont visuelles, qui sont très, très grandes, qui sont lumineuses, etc. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est les petits détails. C'est d'aller regarder sous les coutures, est-ce que tout a été minutieusement bien fait ? Est-ce que la personne a été apprendre de nouvelles techniques, chercher des techniques très avancées, voire des techniques de professionnels pour aller faire ses créations ?
Ah oui.
L'ingéniosité qui a été mise derrière aussi, on adore les processus un peu créatifs. Et c'est toutes ces choses-là qu'on va aller regarder dans le travail qui a été accompli.
C'est devenu un pan aussi de la culture jeux vidéo, de la pop culture. Il y a beaucoup de personnages de jeux vidéo qu'on retrouve en cosplay. C'est quoi les grandes stars du cosplay au niveau des jeux, au niveau des représentations ?
Mario, Luigi.
En vrai,
je te verrais bien en cosplay.
C'est pas difficile.
Franchement, tu pourrais. Non, effectivement, en fait, c'est souvent des personnages un peu des classiques. Hein, on va dire Lara Croft a été pendant très longtemps un perso extrêmement populaire.
Au niveau du tissu à mettre, il n'y avait pas trop autre chose, ça valait, non ?
Mais il y a ce côté, justement, c'est accessible. C'est accessible même à des gens qui ne savent pas forcément encore fabriquer, etc. Donc, on peut customiser pour faire son costume et représenter un personnage d'un jeu vidéo qu'on aime et auquel on a joué, auquel on est attaché. Donc souvent, ça commence par ça, par justement des Mario, des Lara Croft, des choses un peu plus simples, on va dire, pour aller après sur des costumes un peu plus complexes, dans des licences, des World of Warcraft, des choses comme ça.
Là, déjà, World of Warcraft, on commence à...
C'est un boulot, quoi.
Du Final Fantasy aussi, peut-être, non ?
Oui,
Final Fantasy, complètement. C'est très populaire, Final Fantasy.
Les trucs avec des armures, des épées, des armes un peu proéminentes.
Toi, le cosplay, non ?
À regarder, ouais, c'est rigolo. Mais c'est vrai que moi, je sais pas... je suis peut-être un peu trop vieux pour ça, tu vois.
Tu crois ?
Oh, il n'y a pas d'âge pour faire du cosplay.
C'est vrai ? C'est quoi ? Tu sais à peu près l'âge ?
Il n'y a pas d'âge. C'est un hobby qui est quand même plutôt pour des gens qui ont la vingtaine, trentaine, simplement parce que bah, souvent ça coûte cher, hein, ouais. Donc faut un peu de sous. C'est un hobby qui prend aussi beaucoup de temps. Donc, plus tu avances dans la vie, moins tu as de temps généralement à y consacrer.
C'est vrai.
Néanmoins, après, il n'y a vraiment pas d'âge et il y a des personnes très jeunes comme des personnes beaucoup plus âgées qui en font et qui.
C'est gentil
qui
de t'avoir dit très vieille.
Non,
plus âgée.
Plus âgée. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'en convention, j'ai déjà vu des personnes de plus de 70 ans faire des costumes en famille et tout. Et c'est génial. C'est un truc.
Et ça t'a donné envie de faire ta chaîne ? Alors, YouTube à l'origine, je crois, sur le cosplay, non ? Ou t'as streamé tout de suite ?
Je viens du streaming depuis 2013. À la base. Je streamais League of Legends avant même de faire du cosplay. C'est League of Legends qui m'a amenée sur le cosplay et par la suite, moi je me suis mise à faire du cosplay puis je suis revenue sur Twitch. Entre-temps, j'ai eu effectivement cette chaîne YouTube où je me suis dit que personne n'apprenait vraiment aux gens à faire du cosplay ou alors c'était en anglais beaucoup les ressources et il y a peu de francophones qui avaient des ressources pour apprendre. Il y avait une frustration à ce niveau-là et du coup je me suis dit moi j'ai les compétences. Je vais les partager à d'autres personnes pour qu'elles puissent se lancer et puis qu'elles puissent faire leur propre costume.
Moi, je vous invite tous à aller sur la chaîne de Sunday, qui s'appelle Lady Sunday aussi, chaîne YouTube.
Oui, exactement.
Si vous voulez vous lancer dans le cosplay ou si vous voulez juste admirer ce qu'on peut faire quand on n'a aucun talent artistique comme moi, allez voir. Ça a l'air hyper facile et en fait, je suis sûre que non. Donc, 2013, tu as commencé.
Oui.
Pourquoi le streaming ?
Je ne saurais pas te dire pourquoi à
l'époque
qui t'a
donné envie.
Je me suis lancée. Je crois qu'en fait, tous les gens que je côtoyais dans la sphère League of Legends streamaient. Du coup, je me suis dit, je vais faire comme mes potes. C'est vraiment partie de ça. Et c'est surtout que j'y suis revenue très, très tard, après, en 2019. Donc, il y a eu vraiment ce cap. Et là où, par contre, c'était un vrai besoin en tant que créatrice de contenu, où j'étais présente sur Instagram, j'étais présente sur YouTube, etc. Et j'avais déjà quitté mon travail plus classique pour être créatrice de contenu à plein temps. Seul souci, c'est que j'avais pas de lien avec ma communauté. Je manquais un peu de l'engagement que je pouvais avoir avec les gens. J'aimais pas le côté unilatéral où juste moi, je parle et les gens reçoivent, tu vois, sans qu'on puisse discuter. Parce que moi, ce que j'aime, c'est discuter.
C'est l'interaction en direct.
Ouais, exactement. C'est ça qui me manquait. Et ça, du coup, voilà.
Dast aussi, pourquoi tu t'es retrouvé à streamer ? Comment tu t'es retrouvé sur le streaming, plutôt ?
Moi, je me suis retrouvé sur le streaming. Moi, j'ai ouvert ma chaîne Twitch en 2011. C'était juste pour pas qu'on me vole le handle. Ah. Donc, je l'avais réservé, mais je m'en suis jamais occupé. Et je suis arrivé sur le stream un petit peu par hasard, par des relations qui m'ont sollicité, parce que je parle beaucoup de tech. J'écrivais sur des sites web assez connu à l'époque, le journal du Geek, etc. Tu vois. Donc, je parle beaucoup de tech et on m'a sollicité en me disant « Ouais, viens, on fait une émission pour Webedia à l'époque et on discute tech, ça serait cool que tu participes. » Et c'était sur Twitch. Voilà. C'est comme ça que je suis rentré.
Qui était le journal du hardware.
C'était le journal du hardware.
Tous les deux.
On a fini par se retrouver là-bas. Et puis après, le journal du hardware, pour moi, ça s'est terminé. Ensuite, il y a eu le confinement. Et c'est vrai qu'on se retrouvait chez soi à 18h. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ma chaîne Twitch et puis jouer, quoi.
C'est le confinement.
Ouais. Ouais, c'est vraiment le confinement qui a permis de passer le cap, de le faire vraiment, vraiment régulièrement, quoi.
Mais alors, pourquoi est-ce que... Alors, toi, tu avais fait aussi beaucoup de Flight Simulator.
Oui.
À l'époque, énormément.
Beaucoup. J'ai fait le tour d'Afrique.
T'as combien d'heures de vol dessus ?
Je compte pas. Franchement, ouais, je compte pas parce que le tour d'Afrique en monomoteur, c'est très long quand même.
Tu lances des défis aussi.
C'est très, très long. Mais ouais, c'était super. Bah, c'était exactement ça. C'était, tu lances un live, c'est du flight sim, donc tu fais rien à part voler. Donc tu décolles, puis une fois que t'es en l'air, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu parles en fait avec le chat qui est un peu ton passager, tu vois. Et tu discutes avec les gens jusqu'à ce qu'on atterrisse. Et puis les gens parient, est-ce qu'il va se crasher à l'atterrissage au bout de 3 heures de vol, etc. Tu vois, donc,
Moi j'en avais fait avec toi du flight sim, on n'avait pas été extrêmement brillants. Hein. On avait testé du matos.
On n'avait pas les bons contrôleurs.
Pourquoi il y a autant de jeux vidéo pour vous ? Est-ce que ça a permis de faire découvrir le jeu vidéo autrement ? Est-ce que c'est un acteur aujourd'hui, le streaming notamment sur Twitch ? Parce qu'on sait que Twitch au début, c'était énormément de jeux vidéo. Ce n'est pas que ça, on va en parler. Donc, c'était déjà du cosplay. Ouais. Pourquoi le jeu vidéo, ça marche aussi bien ?
Parce qu'il y a énormément de joueurs, en fait, et de joueuses, déjà de base. La moitié de la population joue. Et parce qu'aussi, et ça, c'est un truc que j'avais un peu de mal à comprendre au début, même moi, en tant que producteur de contenu, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui voient certains jeux sortir et qui n'ont pas spécialement envie de les faire, mais qui veulent voir quand même ce qui se passe. Et en fait, c'est comme s'ils regardaient une série, tu vois. Donc les gens qui jouent à des jeux le font en session qui se suivent, les unes à la suite des autres. Et c'est un rendez-vous, quoi. Et tu dis, tiens, par exemple, Uncharted qui passe derrière. Ah, bah, j'ai pas envie de le faire, mais je vais regarder tel streamer ou telle streameuse y jouer. Et j'aurai l'impression d'y avoir joué moi aussi, quoi.
Et voir si ça donne envie. Ou...
Ouais. Et puis il y a de l'échange aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que t'as beau jouer à un jeu. Moi, par exemple, je joue rarement à des Call of Duty ou des trucs comme ça parce qu'il faut être vraiment focus sur le jeu. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression de pas faire mon taf si j'interagis pas avec les gens quand même qui sont là pour te regarder jouer, tu vois. Donc je préfère les jeux un peu slow, c'est pour ça que Flight Simulator c'est parfait pour ça, c'est pour ça que les jeux de cartes type Hearthstone ou même Marvel Snap c'est parfait pour le stream, pour moi en tout cas, parce que ça permet de jouer et puis en même temps de discuter avec les gens, quoi.
Tu joues à quoi toi, Sunday?
En ce moment, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Il y a beaucoup de contenu à faire dessus. Oui. Diablo 4 et World of Warcraft Classic Hardcore, qui est un challenge en gros sur World of Warcraft, mais tu n'as qu'une vie, donc si tu meurs, eh bien, tu supprimes ton personnage.
Tu arrêtes ton live.
Tu arrêtes ton live, tu passes en discussion et tu discutes avec les gens.
Voilà. C'est ce que je fais sur Diablo 4, moi, par contre.
Bah voilà, le mode hardcore, c'est un challenge hyper intéressant pour le streaming.
En stream, c'est cool. En fait, les gens viennent juste voir si tu ne vas pas bousiller ton perso.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là? Alors toi, sur Flight Simulator, les gens attendaient de voir si tu crachais l'avion ou pas. Sur Diablo, si tu meurs. Est-ce qu'il y a des jeux qui s'y prêtent plus pour attirer justement des viewers? Parce que ça, je regardais hier soir par curiosité. Donc évidemment, tout le monde était, les plus gros étaient en train de streamer du jeu vidéo. On avait Squeezie, Zerator. Ouais, c'était Valorant. Ils étaient sur quoi? Minecraft, Unshowdown. Enfin, c'est des jeux un peu péchu où tu te dis il va se passer quelque chose ou il y a un truc qui va...
En fait, il y a deux types de... Il y a le bon et le mauvais streamer.
Il y a deux types de
streamer. Tu as le streamer qui est très talentueux sur le jeu ou la streameuse qui est très talentueuse sur le jeu. Et dans ce cas-là, les gens viennent voir des performances, du skill. Et puis après, tu as les gens qui viennent pour la personne qui joue. Et en fait, quel que soit le jeu, les gens vont venir juste parce que c'est marrant, en fait, tu vois.
La personnalité, c'est important.
Dans la deuxième catégorie.
C'est le principe même de Twitch, je pense. C'est vraiment ce côté personnalité qu'il faut avoir. Il y a plein de types de personnalités très différentes auxquelles les gens, justement, peuvent s'attacher plus ou moins selon leurs préférences aussi. Parce que dans la vie, on aime des types de personnalités différentes. On s'identifie aussi à des personnalités qui sont assez différentes. Mais je pense que c'est l'un des propres de beaucoup de gros streamers, de grosses personnalités de la plateforme. Bah, c'est que justement, ils ont vraiment ces personnalités très marquées. Ils sont très identifiables chacun de leur côté.
D'ailleurs, on le voit, il y a des streamers qui ont démarré parce qu'ils étaient excellents sur du Fortnite ou du Call of Duty ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand ils passent sur un autre jeu, il y a une partie de l'audience qui baisse. Parce que bah, du coup, les gens ne venaient pas pour ça. Alors après, ils vont les récupérer. Surtout
c'était des stars e-sport, surtout, beaucoup qui ont fait ça.
Ouais.
La communauté, on sait que c'est au cœur du modèle de Twitch, du fonctionnement, pour vous aussi. Comment est-ce qu'on fait grandir une communauté et comment est-ce qu'on, surtout, on a une communauté saine?
Ah, c'est une vaste question, mais déjà, comment est-ce qu'on a une communauté? C'est plein de petites choses, mais déjà, c'est, je pense avant tout sur Twitch, la régularité. Ouais. Pour moi, c'est ça la clé de la chose, c'est le fait d'être régulièrement présent, d'avoir un rendez-vous en fait où tu retrouves 1, 2, 3, 10, 20 et puis plusieurs centaines de personnes petit à petit. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre.
Par contre, il y a un truc qu'il faut quand même préciser, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme, elle est saturée en vrai.
Oui, complètement.
De créateurs de
contenu. Il y a énormément de créateurs.
Ouais, et je pense qu'il faut briser ce mythe de tu peux créer une communauté from scratch en partant de zéro viewer. Tu vas réussir à être un gros streamer, c'est plus possible ça. En vrai, il faut avoir une communauté d'avant.
Il faut exister avant Twitch.
Par exemple,
il faut exister ailleurs.
Si tu as une audience sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, il y a des chances que tu réussisses à capter cette audience-là et à former quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui est un peu triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne, les gens, quand ils regardent la homepage de Twitch, mécaniquement, ils vont aller sur des chaînes qui ont déjà des viewers. Mm. Parce qu'ils se disent, il doit se passer quelque chose. Donc en fait, si ta chaîne, elle n'a pas beaucoup de viewers, les gens ne vont pas cliquer dessus. Tu vois, sauf s'ils sont en recherche d'expérience ou de trucs. Et globalement, en fait, c'est ça le truc, c'est que, comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Les viewers appellent les viewers, en fait. Donc, démarrer aujourd'hui sur Twitch sans avoir de contenu, sans avoir de communauté ailleurs.
Sans être identifié, en fait.
C'est très, très dur.
Après, il y a des nouveaux réseaux qui permettent justement de développer. TikTok, par exemple, est un formidable outil justement pour développer pour les streamers, même avec les options de maintenant ce qu'on appelle le multicast, donc de diffuser à la fois sur Twitch et sur TikTok, c'est l'une des rares plateformes où c'est autorisé. Mmh. Ça peut être des leviers hyper intéressants pour des gens qui veulent se lancer. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelqu'un qui partirait de zéro juste sur Twitch n'a aucune chance de s'en sortir.
Mais je crois qu'en termes de chiffres, c'était 99,5% des gens qui streament sur la plateforme ont moins de 10
de
viewers.
5
viewers.
C'était ça.
Donc c'est démentiel.
Il y a énormément
de... Quand tu vois qu'il y a des streams avec des centaines de milliers de personnes connectées, tu te dis que c'est vraiment une partie infime qui capte l'essentiel de l'audience, quoi, vraiment.
Alors, attention, question forcément à laquelle vous ne pouvez pas couper. Est-ce qu'on peut vivre du stream? Est-ce qu'on peut vivre? Je sais que c'est un sujet que tu as beaucoup étudié.
Écoute...
C'est quoi? Alors, aujourd'hui, explique aux gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas, comment ça fonctionne financièrement aujourd'hui Twitch? Comment vous êtes rémunéré?
Comment on est rémunéré? Il y a plusieurs parties. Il y a les revenus communautaires. Donc, ça va être tout ce qu'on va appeler les subs, les cheers. Ça va être, en gros, les revenus qui sont liés aux personnes qui regardent le contenu qu'on fait et qui décident de financer, de soutenir le créateur de contenu. Donc, ça peut être ce qu'on appelle des subs. Ce sont des abonnements qui sont payés tous les mois, qui donnent accès à certains avantages spécifiques à la personne, comme l'accès aux rediffusions, par exemple, ou pas de pub, des émojis spécifiques, etc. Ça, c'est donc la partie communautaire. Et de l'autre côté, il y a la partie publicitaire. Partie publicitaire, à chaque fois qu'on est en live, on peut décider ou non de diffuser de la publicité. Il y a un programme publicitaire également qui a été mis en place sur Twitch et on reçoit une partie, un pourcentage des publicités qui sont diffusées en fait sur notre...
Petit pourcentage.
Alors c'est un assez petit pourcentage. En vrai, c'est de l'ordre de 30% si tu n'as pas le programme publicitaire et 55% si tu prends le programme publicitaire, mais qui t'impose de diffuser un certain nombre de publicités, de minutes de
c'est
publicité.
C'est ça le problème, c'est que ils te disent qu'il faut 2 minutes par heure, donc une minute toutes les 30 minutes.
C'est énorme, hein, quand même.
C'est beaucoup.
C'est plus qu'à la télé. Hein.
Ouais.
C'est plus qu'à la télé, ouais,
complètement.
C'est beaucoup.
Après, c'est une partie, on va dire, un peu plus stable en termes de revenus, puisque du coup, ça ne demande pas à la communauté de financer le créateur et que ça, du coup, ça fait un abonnement, on va dire, un peu plus régulier.
Une base, quoi.
Ça fait une base. Mais vraiment une petite base, parce que ça représente assez peu, finalement, en termes de chiffres.
En fait, le gros du financement pour les gens qui en vivent, c'est ce qu'on appelle les OP.
Ouais. Oui.
C'est le fait d'avoir un partenariat avec une marque, avec un annonceur, avec un studio de jeux vidéo, une marque de produits, et de dealer un contrat en one-to-one avec cette marque-là.
Et c'est quoi? C'est à l'année? C'est au moment?
Ça dépend. Ça peut être sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend du truc. Il y a des OP qui sont très ponctuels. Pour la sortie d'un jeu, on va te demander de streamer le jeu, par exemple. Oui. Tu as des OP qui vont être au long cours avec un logo quelque part sur ton stream. Un lien dans ton chat avec un chatbot qui va poster le lien régulièrement pour que les gens puissent télécharger le jeu, par exemple. Ouais. C'est très, 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 très divers.
C'est très divers. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus des OP? Alors, je comprends l'aspect pour vous que ce soit financièrement important, enfin, pour vous, streamer, j'entends, de manière générale.
Ouais. C'est indispensable.
Est-ce que ça ne devient pas trop? J'ai l'impression qu'on voit beaucoup, notamment quand il y a des sorties de jeux, d'un seul coup, on va avoir un raz-de-marée de contenu sponsorisé sur un jeu ou sur la sortie d'un produit tech ou des choses comme ça.
Ouais.
Est-ce que ce n'est pas aussi un peu le risque vis-à-vis de sa communauté?
C'est toujours
pareil,
en fait. C'est que moi, par exemple, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que... Enfin, beaucoup de problèmes. J'ai du mal, moi, déjà à trouver des sponsors parce que, justement, je parle de tech depuis toujours et que j'ai pas envie d'être acheté par une marque, tu vois.
T'as envie de parler de tout.
J'ai envie de parler de tout, et puis surtout, j'ai envie d'être critique s'il y a besoin d'être critique, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a certains contrats où les marques ne tolèrent pas forcément le libre discours et veulent pas trop que tu les chahutes. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, quelque part, quand tu prends une OP, ça implique que t'es un vendu. Tu vois, ça, c'était en tout cas dans le monde de la presse tech généraliste.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est propre à la presse tech, ça.
Après, ce qui se passe, et ce qui est assez intéressant avec le stream, c'est que sur Twitch, la communauté qui te soutient, elle te suivra. C'est-à-dire que si demain, moi, je dis, j'ai une OP William Sorin, c'est pas ouf, mais je vais devoir dire que j'aime le cassoulet, tu vois. En fait, je sais que ma commu, elle va rigoler, elle va dire, vas-y.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que justement, c'est pas complètement à contre-courant?
Oui, en fait, il y a beaucoup de... un peu de cynisme. Et les gens savent très bien, il y a des streamers, ils font des OP. Moi, je serais la marque qui les paye pour ça. Je serais en train de me dire, waouh, est-ce qu'on a bien fait de payer ce gars-là? Parce que il est littéralement en train de nous bousiller, mais en même temps, ça crée
ça
de l'engagement
de la pub, mais oui,
et ça crée de la sympathie. Et en fait, les marques qui acceptent parfois d'être un petit peu chahuté deviennent sympas aux yeux des, aux yeux des, de l'audience. Et ça aussi, c'est un truc très intéressant à voir.
Est-ce que Kix, c'est l'Eldorado?
Waouh.
Le concurrent.
Ah, moi, je suis direct.
Hop, sans transition.
Attendez,
là, on parle de sous. Kix arrive, dit je vais tout casser Twitch et je vais vous proposer 95%.
Ouais, alors,
des revenus,
c'est vrai
revenus
sur le papier.
Le 95-5, c'est vrai que c'est donc 95% pour le streamer et 5% pour la plateforme par rapport aux 50-50 de Twitch.
Au mieux, 50-50 au mieux.
Parce qu'avant, c'était 70-30 et puis après, ils sont revenus dessus.
Oui, il est revenu récemment, mais pour des conditions qui sont tellement élevées aujourd'hui que très peu de streamers peuvent en bénéficier.
Faire du 50-50. Ouais. Alors, 95-5, c'est quand même mieux sur le papier.
95-5, sur le papier, c'est mieux, mais il faut voir dans quoi tu te lances.
C'est clair.
C'est-à-dire que Kick, je ne vais pas dénigrer la plateforme, hein, mais les financements, c'est une boîte qui appartient en fait à une boîte. À
un, c'est pas très clair, hein, le financement.
C'est une marque qui fait des jeux en ligne, le casino.
Du casino
pas autorisé en France.
Donc du jeu d'argent. Voilà. Les revenus, ils sont en train de faire des ponts d'or, en fait, pour avoir un maximum de streamers
ils attirent des très gros
migrants.
Ouais.
Voilà.
Ouais. 100 millions pour XQC il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est des sommes qui n'ont aucun sens. Et surtout pour une non-exclusivité.
Oui,
XQC, il peut streamer sur Twitch également et il stream sur Kick.
Alors, par contre, je crois que quand il stream sur Kick,
il ne peut pas le faire en même temps.
Il ne le fait pas en parallèle.
Juste,
par contre, il n'y a rien qui l'empêche
il peut faire
sur
une heure
les heures
sur
où il n'est pas sur Kick d'être sur Twitch, ce qui est quand même incroyable. Et puis, en fait, il y a cette provenance de capitaux qui est un petit peu floue, on ne sait pas trop. Beaucoup parlent de blanchiment d'argent, des choses comme ça.
Est-ce que ce n'est pas aussi au niveau de la modération le problème?
Et puis surtout, voilà,
le
principe de Kick, c'est de dire qu'il y a zéro modération.
Ce qui n'est pas faisable.
Vous dites ce que vous voulez. Et en fait, c'était un des problèmes de Twitch. Tu parlais de la toxicité potentielle des communautés, etc. C'est un travail que font les streamers et les streameuses d'essayer de nettoyer leur commu. Et effectivement, tu ne tolères pas des messages qui incitent à la haine, racistes, transphobes, homophobes, etc. Et sur Kick, c'est freestyle, on peut y aller.
Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un concurrent à Twitch? Mixer s'est cassé la figure, ils ont essayé, ça n'a pas marché. YouTube, c'est un autre format. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une autre plateforme?
Moi, je pense que la concurrence est toujours bonne, surtout dans un milieu où Twitch a vraiment le monopole de très très loin devant et TikTok n'arrive pas encore à le faire trembler et YouTube a abandonné, j'ai l'impression, cette lutte-là. C'est bien qu'il y ait un peu justement cette lutte qui arrive et de casser un petit peu les codes, etc. Je ne suis pas sûre que ça a eu encore de l'impact pour l'instant concrètement sur ce qui se passe chez Twitch, mais en tout cas, ça fait un petit peu... Ça pose des questions et ça fait un peu remettre en question certaines choses où les créateurs, avant, prenaient les décisions et devaient les subir. Alors que là, maintenant, beaucoup de créateurs s'élèvent de plus en plus et disent « Attendez, c'est pas
bien,
correct. »
C'est bien d'avoir une alternative. Le problème, c'est que là, l'alternative...
c'est dangereux, c'est pas stable.
Ouais, en fait, c'est la peste ou le choléra, concrètement. Parce que déjà, effectivement, avec de telles conditions tarifaires, financières, on ne sait pas combien de temps ça peut durer comme ça. Mmh. Et puis surtout, moi, ce qui m'ennuie profondément, effectivement, c'est le côté volontairement edgy de la plateforme, de dire, nous, on accepte tous les discours, le free speech, c'est très important, etc. Ils tolèrent n'importe quoi.
Ils tolèrent
des nazis sur leur plateforme. Tu vois.
Ouais. La liberté d'expression, ça a quand même ses limites.
Bah, un petit peu, ouais.
On va parler de la TwitchCon. Parce que je vois le temps qui défile. Je vous y serai tous les deux ce week-end. Das, tu y es aussi notamment pour parler d'un phénomène qui explose beaucoup, je trouve.
Oui.
C'est le jeu de rôle.
Oui.
Vous avez lancé Game of Thrones il y a quelques années maintenant.
En 2017, je crois.
Ouais, c'est ça.
Chez Webedia.
Pour faire du jeu de rôle en stream.
De l'actual play,
Mais pourquoi?
Parce que, en fait, nous, on l'avait fait en podcast. J'animais un podcast, je participais à un podcast qui s'appelait Studio 404 et pour l'émission de Noël en podcast on avait dit tiens ça serait bien de faire un épisode spécial où on fait un jeu de rôle et donc on était des jeunes entrepreneurs dans la Silicon Valley et en fait ce truc là a fait son chemin chez le maître de jeu qui est Fibre Tigre, le créateur
Allez admirer les vidéos, vous verrez Daz aussi dans des tenues.
Oui, il y en a qui passent.
Si vous l'écoutez, vous ratez vraiment des images où il est déguisé avec tout ce qu'il peut, c'est vraiment un jeu de rôle.
Là par exemple c'est un jeu de rôle en OP avec une chaîne concurrente pour une série qui s'appelle Dango. Et donc, tu vois, il y avait des costumes, etc. Et en gros, on a fait ça parce qu'on s'est dit que c'est cool de raconter des histoires et de s'amuser, parce qu'on s'amuse véritablement autour de la table. Quand il y a des tables, des fois, il n'y en a plus même, des tables. Tu vois. Bon, là, je n'étais pas en train de m'amuser. Là. J'étais en train de réfléchir pour essayer de résoudre une enquête. Et c'est un contenu qui a plu instantanément, que beaucoup de gens même ne regardent pas en live, mais regardent en rediffusion sur YouTube, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un univers, que cet univers, du coup, on a publié les éditions papier du jeu de rôle pour que les gens puissent jouer à nos aventures.
C'est aller au-delà du streaming, voilà. Du simple streaming.
On est en train de faire un jeu vidéo.
En public.
On a fait des lives, effectivement, en public. En festival, genre Polymanga à Montreux, Frames à Avignon. Là, on en a fait un à la BPI du Centre Pompidou la semaine dernière. C'était un jeu de rôle sur le monde littéraire, de l'édition littéraire. Et en fait, ça nous permet effectivement déjà de proposer des histoires à suivre. Parce qu'on a fait sur Game of Thrones, qui est l'émission principale, on a produit plus de contenu qu'une série comme Urgence.
D'accord.
Donc tu vois, c'est...
Et c'est dimanche, c'est ça qu'on peut te voir ?
Et donc dimanche on sera à la TwitchCon, mais je pense pas que ça soit alors parce que
c'est
moi
je suis
au courant de rien. Je crois qu'il y a.
Bon, allez regarder sur le site de la TwitchCon.
Non, il y a effectivement une séance de rencontre dédicace avec les gens le matin, ouais. Et après il me semble qu'on participe à une table ronde autour du jeu de rôle sur Twitch, parce que c'est vrai que nous on a lancé ça en 2017, ça existait déjà aux États-Unis. Je sais même plus comment ça s'appelle le truc.
Critical Role, c'est
Critical
ça
Role. Critical Role, ouais. Critical Role qui était fait par des acteurs de doublage. Donc eux, quand ils doublaient des gobelins, t'avais un gobelin qui parlait, tu vois. Il y avait Vin Diesel qui est passé dedans, etc. Donc c'était un très très gros truc. Je crois même que c'est la chaîne Twitch la plus grosse.
La chaîne la plus rentable sur Twitch.
Sur Twitch,
voilà.
Ouais.
Et nous, on l'a fait en France, en français en 2017. Et depuis, effectivement, il y a plusieurs tables.
Il y a beaucoup de choses qui sont
montées
comme ça.
Et c'est super cool, en fait.
Ouais, mais ils vont en parler à TwitchCon. Toi, tu y seras aussi.
J'y serai aussi. J'y suis le samedi pour un meet and greet avec la plupart des gens de chez le stream de la Team Recap.
Les anciens du stream.
Les anciens du stream, ouais. On fait un petit meet and greet pour rencontrer des personnes qui sont là, des viewers, etc.
Et un des principes de la TwitchCon, c'est de permettre justement à la communauté d'aller rencontrer les gens qui suivent.
Oui, après, je vois vraiment la TwitchCon comme un événement B2B principalement pour les streamers, pour les marques. Exactement. Rencontrer d'autres streamers et surtout négocier des partenariats, des sponsors, etc. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Il y a beaucoup de conférences aussi, et pour le coup, moi je vais en animer une également le dimanche sur fédérer une communauté, engager une communauté. Donc ça s'adresse plus à des petits streamers ou streamers déjà implantés sur la plateforme pour justement remettre en place les bonnes pratiques pour justement faire grandir sa communauté et solidifier sa carrière sur le long terme.
Parce qu'il y a des best practices.
Mais oui,
il y en a, évidemment.
C'est à ça que ça sert. Bon, on est arrivé au bout de cette émission. C'était trop court, on a encore plein de choses à se raconter.
Très court.
Mais
très
oui,
court.
Ça passe très vite. 52 minutes la prochaine fois, je vous l'ai dit. Voilà, je connais l'année prochaine. Merci à vous d'être venus. Daz, merci.
Un plaisir.
On te retrouve sur ta chaîne.
Sur ma chaîne, @DazJDM.
Voilà, et on peut te lire aussi.
Sur Twitter.
Sur Twitter.
@DazJDM.
Et
sur Insta, @DazJDM.
C'est bien, c'est original.
Et après, sur Numérama, sur YouTube.
Partout, on peut te suivre. Suivez-le, ça vaut le coup. Sunday, et toi aussi ?
Oui, effectivement. Pareil, twitch.tv/LadySunday, Twitter, Insta, TikTok, YouTube, partout sur Internet. Quoi.
Et ce week-end, donc, à la TwitchCon, vous pourrez voir.
Venez nombreux,
Porte de Versailles. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission en notre compagnie ou de l'avoir écoutée en podcast, puisque voilà, vous pouvez aller sur toutes les plateformes. Vous pouvez la retrouver aussi en replay sur YouTube. Aussi sur la plateforme RMC BFM Play, je ne veux pas que je me trompe dans le nom, j'aurai des problèmes, et sur Tech & Co, la chaîne, évidemment. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour déjà la dernière de la saison. On se fera un petit récap des premiers mois qui ont été particulièrement chargés. Voilà, bonne TwitchCon à ceux qui seront, les autres jouez bien, et puis bon été à ceux qui nous abandonnent. Allez, à plus.